Alors aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, c'est le lac de Tibériade et on pourrait dire que le christianisme, le berceau du christianisme est en Galilée, ici. Non seulement Nazareth, mais aussi Capharnaüm et toutes les autres villes du tour du lac de Tibériade dont nous parlerons et que nous verrons peut-être un petit peu quand nous serons sur le bateau. Et en plus c'est un dimanche, donc raison de plus pour essayer de comprendre un peu mieux d'où nous venons, d'où vient, quel est ce berceau du christianisme qui a vu naître non seulement Jésus, mais la communauté des disciples, et puis la bonne nouvelle en acte. La bonne nouvelle en acte, on l'entendait déjà dans le psaume que nous avons lu. Quand par exemple il y avait cette phrase, il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Voilà. Il commanda et cela exista. Cela vous rappelle une phrase célèbre du poème de la création dont nous parlions hier matin. Dieu dit et cela fut. C'est la parole efficace de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut, par exemple. Donc la parole efficace, c'est le sens du mot d'avar, qu'on a déjà retrouvé dans plusieurs racines depuis le début de notre pèlerinage. C'est pas simplement la parole, parce que pour nous la parole c'est une parole verbale, on pourrait dire. Mais la parole n'est pas toujours suivie d'actes, et puis même on se méfie de la parole quelquefois parce que ce ne sont que des paroles par exemple. Ce ne sont que des paroles. Mais le sens de la Bible, c'est que c'est une parole efficace. On retrouvera le sens de cette efficacité dans le Nouveau Testament également. Parole efficace. C'est d'ailleurs la définition de Jésus selon le quatrième évangile, Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Alors pour nous, le verbe, évidemment, grammaticalement, on sait ce que c'est par rapport au nom commun, mais il ne faut pas traduire comme cela, c'est l'équivalent de « au commencement était la parole », le « davar » en hébreu, ou la « memra » en araméen. La « memra », c'est pareil que le « davar », c'est-à-dire la parole efficace. Alors quand Saint Jean commence par « au commencement était la parole », était le verbe pour parler de celui qui vient, c'est-à-dire Jésus, eh bien, il dit que Jésus sera la parole efficace par excellence, la parole efficace de Dieu le Père. De même qu'il y a eu une première création, la lumière, et cela fut, etc., en 7 jours, mais de même, il y aura une nouvelle création, chacun parle avec ses mots. Hier avec Saint-Luc, eh bien, il y avait les mots de l'année de grâce, une année jubilaire, une année qui durera tout le temps. C'est un nouveau temps qui s'ouvre, un nouveau temps. Mais pour Saint-Jean, il ne le dit pas comme ça, il dit au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole efficace qui crée la nouvelle création. La nouvelle création. Mais vous voyez que ça revient au même. Seulement, ce n'est pas les mêmes références. Ce n'est pas le même mot qu'ils emploient. Et si Saint Jean emploie ce terme de parole, ce n'est pas parce que c'est simplement un mot grec, parce que tout le monde écrit en grec, hein, logos. Mais c'est parce qu'il y a cet arrière-pays, cet arrière-fond, araméen et hébreu, de parole efficace. De parole efficace. Et Jésus sera cette parole efficace qu'on traduira plus tard par sacrement. Le signe efficace, il est le sacrement du salut, évidemment. Donc voilà, Saint Jean commence ainsi. Et parce qu'il commençait ainsi, on se dit, mais notre Jean l'évangéliste dit des choses que les autres n'ont pas dit. Il va plus loin dans la perception de l'identité profonde de Jésus. Il ne se contentera pas de dire, il va peut-être le rappeler, que Jésus était fils de Marie et de Joseph. Pour lui, bon, c'est une identité, peut-être important de savoir, mais pour lui, il est vraiment le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Saint Jean voit à travers la réalité corporelle de Jésus, plus que cette réalité corporelle, ou bien derrière l'identité corporelle, il y a l'identité profonde de Jésus qui est Dieu lui-même, parole efficace. Dieu lui-même, parole efficace. Et parce que Saint Jean voit si loin, la tradition lui attachera à cet évangéliste un signe, un symbole que tout le monde connaît. Saint Jean est représenté par l'aigle. Parce que l'aigle a cette particularité, dit-on, de pouvoir voler face au soleil sans être ébloui. Saint Jean a pu contempler le Verbe de Dieu, l'identité profonde de Dieu, dont il dit qu'il était auprès du Père créateur, créateur avec le Père. Il a pu donc identifier cette profondeur dans l'identité de Jésus, et tel un aigle, il peut regarder le mystère de Dieu, les yeux ouverts en face, et nous proposer ce mystère. C'est peut-être pour ça que cet évangile de Saint Jean paraît quelquefois complexe. Il est même très, très, très difficile. Dans chaque phrase, il y a une idée, on ne voit pas trop le lien entre chacune des phrases, chacun des mots. Jean l'évangéliste connaît cette logique, bien sûr, mais nous, elle nous échappe parce que Saint Jean est à la fois le plus incarné dans la réalité juive de son temps et le plus chrétien, en ce sens que c'est lui qui a percé au mieux le mystère de Jésus-Christ. Et il le relie avec toutes les traditions juives qu'il y a derrière. Ainsi, quand je parlais de Memra, eh bien, c'est avec toute la force des lectures juives de l'Écriture qu'il le dit. Pour lui aussi, il dira que Jésus est vraiment la réalisation de l'Ancien Testament, la continuation de l'Ancien Testament, avec Jésus qui est l'égal du Père créateur. Donc ainsi, Saint Jean est représenté par un aigle. Alors du coup, d'un symbole à l'autre, chacun des évangélistes qui l'ont précédé ont aussi reçu un signe, un symbole. Et on essaiera de voir pourquoi. Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, c'est le premier évangéliste canonique, on pourrait dire. Eh bien, lui est représenté par le visage d'un homme ou d'un ange. Parce qu'effectivement, l'ange qui apparaît à Joseph est celui qui inspirait ou qui a soufflé la révélation à Matthieu, on pourrait dire. Donc, Matthieu est très tourné vers cette vision qui révèle l'identité de Jésus à travers la vision de Joseph. Prends avec toi Marie, n'aie pas peur, etc. Voilà. Donc, Matthieu, le visage de l'homme ou bien le visage de l'ange. Puis le deuxième évangéliste canonique, c'est Marc. Alors lui, ça commence par, on voit pas trop le rapport, c'est le lion qui le représente, et ça commence par « Une voix crie dans le désert », et c'est la voix de Jean-Baptiste. Mais justement, le désert est considéré comme le lieu du lion, et dans la tradition biblique, on parlait déjà du lion de Juda, c'est-à-dire l'image du Messie à venir, représentée par cet animal. Et on le retrouvera à peine un peu plus tard, quand Jésus est dans le désert, affronté aux tentations. Mais dans Marc, on ne raconte pas chacune des trois tentations. Ce n'est que dans Luc et Matthieu qu'on raconte les trois tentations. Lui, globalement, bien, Jésus était tenté et les bêtes le servaient. On sent bien que c'est de cette manière que Marc nous dira qu'il y a une harmonie universelle, comme une espèce de premier jardin perdu, mais retrouvé. L'harmonie universelle entre les animaux sauvages et l'humanité. C'est Jésus qui apportera cette réconciliation. Et Jésus étant considéré comme le lion de Juda, c'est-à-dire le roi des animaux, le maître de toutes les forces contraires qui ont pu l'assaillir dans le désert. Donc voilà, Saint-Marc et le lion. Et enfin, il nous manquerait Luc. Alors Luc, oui, pourquoi le taureau, la tête de taureau? Eh bien, c'est que Luc fait commencer par l'évangile de l'enfance, mais il introduit un personnage qui est important. On lit chaque jour le cantique qu'il a prononcé, Zacharie. Zacharie, eh bien, on lui fait l'annonce, un ange lui annonce que sa femme enfanterait, et ça sera Jean-Baptiste, même si elle était âgée. Eh bien, Zacharie, qu'est-ce qu'il était? Il était prêtre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était au temple pour accomplir son service. Il faisait partie de l'une des 24 classes de prêtres qui existaient autour du temple de Jérusalem. Et donc, il exerçait son service et il devait normalement ressortir du temple en bénissant le peuple. Mais comme il était muet, il a douté. Eh bien, comme il était muet, il n'a pas pu bénir le peuple. Alors, je raconterai plus tard comment cette bénédiction s'effectuera dans l'évangile de Luc. Mais restons-en à Zacharie offrant le sacrifice dans le temple. Qu'est-ce qu'on offrait? Eh bien, on offrait des animaux. Eh bien, on a représenté Luc comme étant... on a représenté Luc par une tête de vache ou de taureau ou de bovin pour justement représenter le sacrifice de Zacharie au temple. Bon, vous allez me dire, c'est un peu artificiel tout ça. C'est sûr que les évangélistes n'ont pas du tout pensé à ça. C'est un peu la tradition qui leur a donné ce symbole. Mais si on additionne ces animaux, ils sont au nombre de 4. C'est d'ailleurs très révélateur que la tradition ait retenu 4 évangélistes. Ils auraient pu simplement en retenir qu'un seul. Et on verra que dans la suite, eh bien, certains vont regretter qu'il n'y ait pas qu'un seul évangile, parce que ça nous complique beaucoup. Ils disent un peu la même chose, mais pas tout à fait. Quelquefois même, ils se contredisent. Alors, ça nous embête, ça. On aime les choses bien rangées, bien droites, bien alignées, et que rien ne dépasse, quoi. Hein. Alors, bah, oui, ça sera une tentation qui sera résolue au 4e, 5e siècle par Ephrem, qui va faire des 4 évangiles un seul. Voilà. Et cette version, eh bien, durera longtemps, hein, jusqu'au Moyen Âge. Bon, mais depuis, on s'en est débarrassé et on revient aux 4 évangiles normaux. Il faut accepter les différences. Parce que si on réduit tout, on passe à côté de la spécificité de chacun des 4. Donc, 4 animaux. Mais si on se souvient bien, pas trop peut-être, mais enfin, déjà dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, il y avait cette vision des quatre animaux, le tétramorphe. Eh bien, cette vision d'Ézéchiel consistait à essayer d'imaginer l'avenir, puis la manifestation de Dieu de façon avec des phénomènes extraordinaires, l'apparition des 4 animaux. Eh bien, la mémoire chrétienne fera le lien entre la vision d'Ézéchiel et les 4 évangélistes, donnant à chacun des 4 tel ou tel symbole, donc l'homme, le lion, le taureau et l'aigle. Ceci dit, ça c'est la tradition qui les décrit comme cela. Ceci dit, qu'est-ce qu'il en est à l'origine? Alors, à l'origine, nous voyons déjà le lac, hein, vous l'avez vu. Déjà, la pancarte indique Magdala. C'est évidemment Migdal, en hébreu ça veut dire la tour, mais il y avait un célèbre personnage, Marie, qui était de Magdala, on l'a appelée Marie Madeleine par la suite, mais Marie de Magdala, elle était d'ici. Alors comment est née cette aventure de l'évangile? On dira tout à l'heure comment Jésus a appelé les disciples, etc. Mais restons-en à la formation des évangiles. Le dernier point qu'on a vu, c'était les 4 visages qui ont été donnés par la tradition, c'est-à-dire au 2e, 3e siècle. Mais comment se sont formés les évangiles? Eh bien, il y a d'un côté les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et de l'autre côté l'évangile de Jean. Il y a quelques points communs, par exemple la multiplication des pains, elle est présente en Jean et elle est présente dans les 3 synoptiques. Mais il faut dire qu'il y a des différences importantes. Par exemple, pour Saint Jean, Jésus est venu 3 fois au temple de Jérusalem, 3 années différentes. C'est pour ça qu'on en a déduit que le ministère public de Jésus était a duré 3 ans. Mais les synoptiques n'ont pas ce récit-là. Et les synoptiques ont une trame commune qui a servi à la rédaction des trois. Une trame commune dont Saint-Marc est la plus proche et qui raconte d'abord les préparatifs du ministère de Jésus, c'est-à-dire la prédication de Jean-Baptiste, le baptême du Christ et les tentations au désert. Ça, ce sont les trois éléments qui sont présents dans les trois premiers synoptiques. Les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Donc la première partie de cette trame commune aux trois, c'est le prélude, le prologue de la vie publique de Jésus. Jean-Baptiste, baptême, tentation. Et puis il y a deux grandes parties dans la narration. La première partie se passe ici en Galilée avec l'appel des disciples, mais aussi tout ce qu'il a réalisé, dit et vécu ici. Et quand le ministère galiléen de Jésus se termine, Jésus monte à Jérusalem. Et c'est la deuxième partie de l'évangile, commun aux trois. Et on assistera donc à la prédication de Jésus au temple. Souvent, ça commence par l'épisode des marchands qui sont chassés du temple par Jésus, avec cette colère qu'il a pris. Et ensuite, il y aura toutes les polémiques entre les gens de Jérusalem, les juifs de Jérusalem et Jésus. Les discours de type apocalyptique de Jésus, par exemple, bien de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, par exemple, mais enfin, il y a bien d'autres. Et ensuite, l'arrestation, le jugement, la passion, la crucifixion et la résurrection. Voilà, voyez donc la trame synoptique, il y a un prélude et deux grandes parties, ministère galiléen et ministère autour de Jérusalem. Eh bien ça, c'est le point commun entre les trois, Matthieu, Marc et Luc. Cependant, ça serait trop simple de dire ça, Marc est le meilleur représentant de cette trame synoptique et c'est lui qui écrit en premier l'évangile le plus court parce qu'il n'y a pas d'évangile de l'enfance. Il n'y a que 16 chapitres. Et Marc est donc le premier évangéliste. Il a écrit autour des années 70. Alors on dit que c'est autour des années 70, et en tous les cas avant que Jérusalem soit prise et démolie par les Romains, parce qu'il n'y a aucune trace de la malédiction de Jérusalem par Jésus, ce qui sera le cas de Matthieu et de Luc surtout. Donc il aurait écrit avant 70, et puis deux autres ont écrit en connaissant la trame synoptique, mais en connaissant aussi une autre source, la source des paroles de Jésus qui se trouvent chez Matthieu et Luc et pas chez Marc. Les grands discours, ça sera chez Matthieu et chez Luc aussi, avec beaucoup de paraboles de Jésus. Il y en a une quarantaine en tout, et Luc est un brillant représentant des paraboles de Jésus. Bon. Par contre, Matthieu et Luc ont un point commun que ne connaît pas du tout Marc, c'est donc les sources, les discours, les sentences de Jésus. Par exemple, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, c'est le genre de sentence que Marc ne connaît pas. Donc il y a eu comme. On pense que c'est un écrit, hein, un livre qui a paru, qui a circulé. Marc ne l'a pas connu. Et donc ne l'a pas introduit dans ses sources, tandis que Matthieu et Luc l'ont fait. Ils connaissent cette source, mais les deux ne se connaissaient pas. Ils ont écrit en toute indépendance. Alors vous allez me dire, mais pourquoi trois évangiles à partir de la même trame et différents? Eh bien ça, il faut l'expliquer par l'expansion du christianisme. C'est poser la question, mais pour qui écrit l'un et pour qui écrit l'autre? Alors eh bien Matthieu écrit essentiellement pour des juifs qui connaissent toutes les traditions d'Israël, qui vivent de l'espérance messianique, c'est-à-dire d'un nouveau David. Et l'un des signes de cette espérance messianique en Matthieu, c'est les généalogies. Vous savez qu'il commence par une immense, immense, immense généalogie, 3 fois 14 générations. Et quand on se dit, mais pourquoi 3 fois 14? Eh bien, 14, c'est le chiffre de David. Si vous additionnez le nombre qui correspond à ta lettre, c'est-à-dire D, à celui du Vav, le V, et de D, vous arrivez à 14. 4 plus 6 plus 4. Ça fait 14. Et donc 3 fois 14, c'est-à-dire Jésus, c'est vraiment le nouveau David. Jésus, c'est le nouveau David. Donc c'est ainsi que Matthieu, de cette manière-là, nous dit que Jésus est dans la continuité de l'Ancien Testament, il est le nouveau David. Alors, pour un petit commentaire, nous avons quitté la montagne de Béatitude, où nous irons tout à fait en fin de matinée, et nous arrivons au bord du lac avec Tabga à droite et Capharnaüm à peine un peu plus loin. Nous, on va directement à Capharnaüm, voilà. Donc, Matthieu a un point commun avec Luc, c'est la source. Et les deux ont écrit, voilà, je voulais terminer avec ça, ont écrit aux alentours des années 80-85. Vous voyez, premier évangile, Marc vers les années 70, et Matthieu et Luc, 85. Donc Matthieu écrit pour des juifs, Luc écrit plutôt pour des hellénisants qui accèdent à la foi chrétienne, comme Théophile. Et Marc, c'est l'oreille de Pierre. On le retrouvera à Capharnaüm maintenant, puisqu'on va commencer. L'évocation de la journée par la ville de Capharnaüm, et évidemment c'est l'évangile de Marc que nous citerons plus tôt et d'abord, parce que on dit que Marc, c'est l'oreille de Pierre. Il a suivi Pierre, il est d'ailleurs, le petit indice, c'est qu'il dit souvent, et Jésus se rendit à la maison. Ah, mais nous qui ne connaissons pas bien, mais c'est quelle maison? Ben, pour lui c'est évident, c'est la maison de Pierre. Voilà, et nous allons voir et comprendre comment les siècles ont gardé la mémoire de la maison de Pierre à Capharnaüm. Tous les chapitres de Saint Jean sont des mini-évangiles qui sont complets. Et les chapitres se complètent, mais les évangiles sont complets. Et le lien entre Saint Jean et Saint Marc, eh bien, c'est justement la conclusion. Quand Jésus demande à tous, à la fin du long chapitre, il y a plus de 50 versets, il leur demande, mais enfin, tout le monde était parti, ça a bien commencé, c'est-à-dire avec la multiplication des pains, tout le monde suivait Jésus et compagnie. Et puis, la deuxième fois qu'il prend la parole, eh bien, il controverse avec les juifs le quittent. Et puis, progressivement, il ne reste que le petit cercle. Et alors, Jésus qui pose cette question, et vous, voulez-vous me quitter? Et Saint-Pierre qui répondra, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Donc, autrement dit, c'est un acte de foi que Pierre pose, et on sent bien que c'est un acte de foi mûri par tout le cheminement du chapitre 6, mais également le résumé de la foi de l'Église, exprimé par celui qui est devenu le premier des apôtres, le chef de l'Église, etc. Donc, il exprime la foi, mais Pierre donc n'a pas toujours été aussi assuré dans la foi, nous le savons. Alors, donc, c'est vraiment une très belle conclusion par Saint Jean, une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Saint Pierre qui exprime au mieux la foi de l'Église. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est Saint Jean qui lui fait dire ces paroles en disant que Jésus est vraiment celui qui réalise tout cela, quoi. Et nous croyons en Jésus. Bon. Mais la première page de Saint Marc, on pourrait dire qu'elle est plus, à la fois profonde, mais plus quotidienne. Elle s'inspire de tous ces lieux. Et au fur et à mesure, peut-être, j'expliquerai. Mais je préfère commencer par lire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'inauguration du ministère de Jésus, c'était toujours Jean-Baptiste d'abord, puis le baptême, puis les tentations. Donc nous sommes après les tentations et Jésus vient ici, en Galilée. C'est le chapitre 1, hein. Je lis tout le chapitre 1, qui est une espèce d'immense prologue de l'ensemble de l'évangile de Marc. Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, la mer de Galilée qui est derrière nous maintenant, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. L'appel des disciples. Des premiers disciples. Puis avançant un peu plus loin, toujours au bord du lac, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi dans leur barque, en train d'arranger les filets.
Et aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. L'appel du premier disciple. Ils pénètrent ensemble, les quatre et Jésus, ils pénètrent à Capharnaüm et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui cria en disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui, et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux « Qu'est cela ? Un enseignement nouveau donné d'autorité. Même aux esprits impurs, ils commandent et lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas parler les démons parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, s'en alla dans un lieu désert et là, il priait. Et j'arrête là, cette première journée de Jésus à Capharnaüm. Une journée donc très bien remplie. Première chose qui frappe, c'est... le récit trépidant des activités de Jésus, l'adverbe qui revient tout le temps, c'est « et aussitôt ». Voilà. Et ça, c'est la caractéristique de l'évangile de Marc. On est toujours dans l'activité, on est toujours dans un lieu public, on est toujours, même si on entre dans la maison de Pierre, mais on est toujours dans la rue. Voilà. La vision que Marc nous donne de Jésus, c'est qu'on est toujours dans l'activité, dans la rencontre avec les gens, dans les guérisons, dans les exorcismes, etc. On est toujours, l'adverbe qui rythme ça, c'est aussitôt. Et vous voyez que ça commence petitement, il appelle. 2 plus 2. Les fils de Zébédée, ils sont pêcheurs ici, mais ils sont originaires du nord du lac de Galilée, d'une ville qui s'appelle Bethsaïde. Pierre aussi d'ailleurs. Pierre n'était pas d'ici, il s'est marié ici. Sa belle-mère était dans la maison ici. Quoi. Donc, il commence petit à petit, et puis il va rentrer dans la synagogue de Capharnaüm. C'était un jour de Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer? Il va guérir un esprit impur. Alors, on pourrait se demander, tiens, pourquoi ça prend place là, en plus un jour de Shabbat ? Eh bien, Marc est en train de nous dire que Jésus, un bon juif, vient à la synagogue, c'est pas le problème. Luc nous fera entendre un texte d'Isaïe, ce n'est pas son problème, Marc. Marc, c'est un actif, c'est quelqu'un qui raconte, il raconte très brièvement ce qui lui semble essentiel. Et ce qui lui semble essentiel, c'est que le Shabbat est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, il est fait pour que tous puissent avoir accès à la bonté de Dieu, à la création de Dieu. Autrement dit, Jésus sera celui qui va venir, entre guillemets, réparer la première création qui n'a pas pleinement abouti. La première création, eh bien, il y a des malades, il y a des gens qui sont possédés, il y a des inégalités, bon et compagnie. Et donc, Jésus va rétablir cela. Jésus est celui qui vient redonner la santé, la vie et enlever les possessions.
On ne peut pas se rendre dans une
Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul Seigneur. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul sauveur. Ne me dis plus jamais que tu n'en es pas digne. Ne me dis plus jamais que tu n'as plus d'espoir, car moi je suis ton Dieu, car moi je suis la vigne. Je m'approche de toi pour te donner à boire. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul Seigneur. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul sauveur. Ne me dis plus jamais que tu as peur de moi, que tu crains que je sois exigeant envers toi. Je ne suis que l'amour, je ne suis que la joie. Je t'en prie, mon enfant, jette-toi dans mes bras. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul Seigneur. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul sauveur.